Salut les rebelles intelligents, je suis actuellement avec une invitée très spéciale puisque je suis avec Alexandra Villarroel Abrego. Salut Alexandra.
Allô, on avait fermé les yeux comme tu sais.
Ah oui, c'est ça.
Allô.
Ouais, parce qu'on a une private joke où on se fait des high five en fermant les yeux. Pour l'instant, il y a personne qui s'est pris de baffe, mais sans doute que ça va arriver un jour. On verra qui c'est. Donc Alexandra a insisté pour que je donne tout son prénom. Parce que tu es d'origine bolivienne, hein, même si...
Je suis née ici, à Montréal.
Tu es née à Montréal et tu parles aussi parfaitement anglais.
Ouais.
On va en reparler justement. Et donc, tu es une super entrepreneuse qui commence à te faire pas mal connaître dans tout le monde de la francophonie et aussi dans le monde hispanophone et anglophone, puisque tu as une chaîne, Alexandra
Villarroel. Alexandra TV.
Alexandra TV, qui commence à bien marcher. On va en parler aussi, et que tu fais, et tu es la seule infopreneuse francophone que je connaisse qui fait des vidéos en trois langues. Puisque tu fais toutes les vidéos en trois versions, une en français, une en anglais, une en espagnol.
Exactement.
Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Qu'est-ce que tu fais?
Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une, je dis toujours que je suis une femme d'affaires avant tout. Je suis coach de vie, je suis conférencière internationale et auteur, best-seller. Puis c'est ça, j'ai commencé à l'âge de 19 ans. On va, j'imagine, en reparler un peu de tout ça, de mes débuts. Puis c'est ça que je fais. Puis comme tu as dit, je le fais dans les trois langues. Donc c'est beaucoup de travail, oui, mais ça en vaut la peine, je trouve. Ça en vaut vraiment la peine parce que là, comme tu as dit, ça commence à comme grandir de plus en plus. Et là, ça grandit vraiment dans, non seulement, on va dire, la francophonie, mais aussi dans côté hispanophone, côté anglophone. Donc c'est comme, c'est très international, puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est ça.
Et alors, de quoi tu parles?
Je parle de, en ce moment, parce que je pense qu'avec les années, on évolue tout le temps, n'est-ce pas? Quand j'avais commencé, j'avais 19 ans, donc je parlais beaucoup de la confiance en soi, l'amour propre pour les jeunes filles. J'en parle encore de nos jours. Aujourd'hui, je parle beaucoup de ce mélange, pas ce mélange, mais devrais-je dire les deux désirs ultimes de l'être humain. Donc, tout ce qu'on veut dans la vie, les êtres humains, femme ou homme, c'est soit plus d'amour ou plus de liberté. L'énergie féminine à l'intérieur de nous tous désire avoir plus d'amour, et l'énergie masculine à l'intérieur de nous tous désire avoir plus de liberté. Donc ça, c'est tout, n'importe quel but, n'importe quel objectif qu'on se donne dans notre vie, n'importe quel rêve qu'on a est basé sur ces deux grands désirs qui se trouvent à l'intérieur de nous. Alors, dans tout ce que j'enseigne, dans tout ce que je fais, c'est de ces deux désirs-là que je parle souvent.
Tu t'adresses plus à des femmes ou des hommes?
Plus à des femmes, définitivement. Plus aux femmes. Puis je trouve ça très, très intéressant de voir comment que, de nos jours, les femmes, étant donné que nous vivons dans une société patriarcale, femmes et hommes, on a tous plus le désir de la liberté que de l'amour. Donc, c'est comme si le désir de l'amour est peu à peu en train de disparaître. Mais pour moi, c'est très important d'enseigner cet équilibre entre les deux. Puis là, petit scoop, mais mon premier livre, Au-delà de la beauté, que j'avais lancé quand j'étais beaucoup plus jeune, on l'a justement ici, mais que la nouvelle version va sortir le 14 mars. Eh bien, ce livre-là, ça va être comme mon premier livre dans un sens, mais mon deuxième livre sur lequel je suis déjà en train de travailler, ça parle surtout de l'énergie de l'amour et comment que, en tant que femme de cette génération surtout, on a la responsabilité de faire revenir l'énergie de l'amour, parce que c'est seulement à travers l'énergie de l'amour qu'on va pouvoir sauver le monde. Donc oui, c'est important de vouloir et désirer la liberté, donc d'avoir de l'énergie masculine à l'intérieur de nous. Par contre, l'énergie de l'amour est en train de peu à peu se perdre. Alors, il faut que nous, en tant que femmes, étant donné que c'est côté féminin, c'est l'énergie féminine, il faut qu'on fasse revenir cette énergie. Donc, ça, c'est vraiment un scoop, parce que j'en ai pas encore parlé de mon deuxième livre, que j'ai très, très hâte, que normalement devrait sortir 2018-2019, mais ça va être vraiment en rapport à ça, hein, à l'énergie de l'amour et comment ressusciter cette énergie-là.
Oui, parce que finalement, un de tes grands messages, c'est comment faire quand tu es une femme moderne et que tu as de l'ambition et que tu veux réussir ta carrière, tu veux être entrepreneuse pour en même temps ne pas sacrifier ta féminité et puis voilà, cet apport d'énergie féminine dont tu parles justement. Et c'est vrai que c'est un challenge pour beaucoup de femmes aujourd'hui.
Ah, oui.
Et que nous, les mecs, on a un petit peu moins de problèmes à gérer à ce niveau-là.
Ouais, c'est ça.
C'est évident. Ok, et du coup, alors raconte-nous un petit peu tes débuts. Tu dis que tu as démarré à 19 ans. C'était quoi ton premier business?
Ben, c'était ça. Moi, depuis que j'ai commencé, tu sais, je crois pas en la chance. Je crois que, comme Oprah Winfrey, elle dit... la chance arrive quand l'opportunité rencontre la préparation. Par contre, je crois vraiment qu'à l'âge de 19 ans, la seule chance que j'ai eue, c'est de découvrir qu'est-ce que j'aimais vraiment faire dans la vie. Puis c'était ça. Je me souviens, mon histoire, dans le fond, comment tout a commencé, c'est qu'à l'âge de 18 ans, j'avais décidé de partir de chez ma mère puis aller habiter en appartement avec une amie. Quand je regarde en arrière depuis mon adolescence, j'avais toujours ce désir à l'intérieur de moi pour plus de liberté. Donc, l'énergie, justement, masculine, je voulais être libre dans tous les sens. Et là, à l'âge de 18 ans, j'étais partie en appartement, on habitait ensemble pendant 2 ans avec cet ami-là. Mais un an, ça faisait déjà comme 12 mois, un an qu'on habitait ensemble. Puis je commençais à avoir cette, que, comme ils disent en anglais, midlife crisis, mais comme à l'âge de 19 ans.
19 ans?
Que, oui, oui, parce que là, ça faisait un an.
T'es précoce, dis donc.
Ouais, je sais, vraiment. Parce que je me disais, ça faisait déjà un an que je travaillais à un emploi que je détestais, mais que je devais travailler à cet emploi-là parce que je devais payer les factures, je devais payer mon loyer, les meubles, les cartes de crédit, etc. J'étais dans une relation très toxique. À toutes les fins de semaine, on faisait les mêmes choses, aux mêmes endroits, avec les mêmes personnes. Ça tournait toujours en rond. On n'avait jamais comme de but. Le seul but, c'était comme d'arriver au vendredi, puis que ce soit la fin de semaine. C'est le seul objectif. Ouais. Puis c'est malheureusement, c'est la vie que plusieurs personnes vivent, n'est-ce pas?
Que beaucoup de personnes vivent, on
absolument.
Peut le dire.
Absolument. Moi, je dirais la majorité, n'est-ce pas, des gens dans ce monde vivent. Mais justement, à l'âge de 19 ans, il y a quelque chose qui m'est arrivé. Ça faisait exactement un an qu'on habitait dans cet appartement-là. Puis le soir des un an, de célébrer notre... le fait que ça faisait déjà un an qu'on habitait là, j'ai fait un rêve ce soir-là. Puis, dans ce rêve-là, il y avait un homme dans une ruelle qui marchait derrière moi, il me suivait. Puis, à chaque fois que je me retournais et je regardais en arrière, il était de plus en plus près de moi. Puis, à un moment donné, je me suis arrêtée, je l'ai regardé, il m'a regardé, puis il m'a dit « viens avec moi ». Puis là, je me suis dans mon rêve, je lui ai dit « mais je peux pas, je dois rester ». Puis là, il m'a dit « mais pourquoi veux-tu rester? Es-tu heureuse où tu es ?» Puis là, je me souviens que dans mon rêve, je me suis dit « est-ce que je suis heureuse où je suis ?» Et là, je me suis réveillée. Je regardais autour de moi, dans mon bel petit appartement que j'avais avec mon ami. À côté de moi, j'avais un jeune homme que moi, j'étais follement en amour avec lui, mais je savais très bien que lui, il se foutait de moi. Dans le salon, j'entendais encore les gens qui faisaient la fête à comme 6h du matin, tu sais, puisqu'on avait, on a fait une grande célébration. Puis là, je me suis demandé, est-ce que je suis heureuse où je suis? Puis la réponse, c'était non. J'étais pas heureuse où j'étais, puis ça, c'était parce que j'avais pas de but, j'avais pas rien dans ma vie. C'était juste cette routine de survivre et non de vivre. Après ce rêve-là, je m'étais dit, bon, ça va passer, je vais me sentir mieux dans un bout de temps, là. Je vais sortir la fin de semaine prochaine, ça va aller bien, tu sais. Mais quelques semaines après, je me souviens, j'étais dans le même autobus que je prenais à tous les matins, à 5h23 du matin. Je vais me réveiller à 4h du matin.
Wow.
Pour arriver au travail.
5h23? À 5h23.
C'est un peu tôt. Hein? Ouais. C'est un peu tôt. Puis justement, je me réveillais à 4h du matin pour arriver à ce travail-là à 7h30 du matin. Puis je regardais autour de moi le visage des gens. Puis là, ça faisait déjà un an que je les voyais dans cet autobus, à tous les matins. Puis ils avaient l'air tous tellement tristes, tellement comme fatigués. Ils avaient tous leur petite thermos de café. Puis pendant quelques instants, j'ai commencé à me sentir mal pour eux. J'ai commencé à me dire, OK, comme ça doit être vraiment triste d'être eux. T'sais, je voudrais pas être à leur place. Et là, je me suis dit, mais attends une minute. Moi aussi, je suis ici, ça fait un an. Moi aussi, je suis fatiguée. Moi aussi, je me sens pas bien. Ça, je me suis dit, j'ai sûrement et probablement la même expression faciale présentement. Moi aussi, tu sais, je suis ici. Puis pendant quelques instants, je m'étais dit, peut-être que c'est ça la vie. N'est-ce pas? Peut-être que c'est un jour, tu te réveilles, puis tu deviens un adulte. Puis quel moment que tu deviens un adulte? Ben, la vie, c'est justement de travailler de 9 à 5, d'attendre désespérément pour le vendredi, de détester les lundis, d'attendre pour tes 2 semaines de vacances par année. Puis que ça doit être ça, la vie. Puis à ce moment-là, puis ça, je partage souvent dans les conférences, puis c'est quelque chose que plusieurs personnes viennent me voir après, pour, comme ils sont en train de pleurer, tu vois, quand je dis ça. Mais à ce moment-là, je me suis souvenue de quand j'avais à peu près 9 ans. Je suis enfant unique et j'ai grandi avec ma mère et mes grands-parents. Puis mon père n'a jamais été dans ma vie. Puis je me souviens un jour que je jouais dans les choses à ma mère, je fouillais dans ses tiroirs, etc. Puis j'avais trouvé une carte d'affaires. Puis je reconnaissais le nom de mon père. Puis derrière la carte d'affaires, il y avait un numéro de téléphone avec le nom d'une clinique en haut. Puis je me souviens, j'avais gardé cette carte d'affaires-là comme le seul souvenir, justement, que j'avais de lui. Puis un jour, je pense que ma mère avait trouvé la carte, puis on avait commencé à en parler, etc. Puis elle m'avait raconté que le moment qu'elle est tombée enceinte de moi, elle avait dit à mon père, puis mon père avait dit « je veux pas d'enfant, alors voici un numéro de téléphone d'une clinique, et voici le nom de la clinique, et va te faire avorter.
Wow. »
Ma mère, elle venait d'arriver au Canada, ça faisait à peu près 2 ans. Elle connaissait personne, elle parlait pas encore le français ni l'anglais. Elle travaillait comme femme de chambre dans un hôtel, elle avait pas d'argent. Alors elle s'était dit « peut-être que c'est ça la solution, peut-être que c'est ça que je devrais faire. » Alors elle avait pris le rendez-vous, tu sais, ça allait arriver, j'allais pas être ici, je serais pas en ce moment ici. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que les papiers d'immigration de ma grand-mère se sont fait approuver. Elle est arrivée au Canada comme cette même semaine-là que tout ça se passait. Elle a appris que ma mère est enceinte, puis elle a dit « si tu te fais avorter, je m'en vais et tu ne me reverras plus jamais. » Puis elle a dit « garde enfant, on va s'en occuper ensemble. » Puis, ben, je suis ici avec vous aujourd'hui. Mais ce matin-là, quand j'étais dans cet autobus-là, puis j'ai pensé, je ne sais pas pourquoi cette histoire m'est venue en tête, mais je me suis dit « c'est impossible que je sois ici dans ce monde juste pour ça. » pour juste comme survivre. Comme il doit, si toutes les étoiles de l'univers se sont alignées d'une façon à que je sois ici.
Donc tu as eu toute cette réalisation là.
Oui, 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 comme dans ce moment-là.
Alors est-ce qu'il y a une lumière qui est venue du
défilé? Il n'y avait pas de lumière encore dans
le mais donc tu as eu ce rêve comme ça.
Oui, ce après, rêve, et deux semaines après, c'était dans l'autobus.
Donc c'est vraiment été une réalisation que c'était pas pour toi.
Uh-huh.
Et une décision consciente de ne pas le faire, d'arrêter de cette routine-là.
C'est ça.
Et qu'est-ce que tu as fait alors? C'était quoi ta première action?
La première action, c'est que j'ai sonné la petite cloche dans l'autobus. Je suis descendue de l'autobus.
T'es sérieuse?
Je te jure.
Non, mais t'es sérieuse?
Je te jure.
C'est incroyable.
J'ai traversé la rue.
On dirait une histoire de conte de fées, c'est fou.
C'est vraiment ça. Ouais. J'ai traversé la rue pour prendre l'autobus de retour à la maison, parce que j'avais pas assez d'argent pour prendre un taxi ou quelque chose. Ce serait pas aussi conte de fées.
Mais là, t'allais au bureau, donc, hein, d'accord.
J'avais le travail. Mais là, je suis arrivée chez moi. Ouais. J'ai appelé le travail, puis je leur ai dit que j'étais vraiment malade, puis que je pouvais pas rentrer. La journée d'après, j'ai fait la même chose. Puis, l'affaire, c'est que je me sentais vraiment, littéralement malade. Comme, non seulement que j'allais pas bien à l'intérieur de moi, mais j'étais fatiguée, comme à un point où que je pouvais dormir pendant, comme, on va dire, 19 heures par jour, tu sais, puis que j'allais être encore fatiguée. Alors, j'étais allée au docteur, puis le docteur m'a dit que j'étais déprimée, puis que j'avais une dépression. Puis là, j'ai eu 6 mois en dehors de ce travail-là. Puis, c'était la meilleure des choses, comme sans travailler, puis quand même, bien sûr, le travail me payait, etc. Puis ça, c'était la meilleure chose parce que c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK. Qu'est-ce que je veux faire avec ma vie? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai 19 ans, je suis endettée, j'avais presque 20 000 $ en dette. J'avais pas de diplôme de cégep ou d'université, je pouvais pas aller.
Qu'à 19 ans, tu avais 20 000 $ de dette?
Parce qu'on avait emménagé à nos 18 ans, on n'avait pas d'argent pour acheter des meubles au comptant, on devait tout mettre ça dans des cartes de crédit. On avait un appartement, on devait meubler, on devait avoir un réfrigérateur, on devait avoir un sofa, on devait avoir un lit, c'est sûr qu'on allait dormir. En plus, on avait ça, les belles choses. On avait acheté plein de choses qui étaient comme trop chères pour qu'est-ce qu'on pouvait se permettre. Donc, c'est ça. Là, j'avais commencé à me questionner qu'est-ce que je veux faire. Puis c'est là que Au-delà de la beauté a commencé à naître. En anglais, en premier, quand je l'avais écrit. Beyond Beauty, ouais.
Mm-hmm. OK. Donc, ce livre, de quoi tu parles?
C'est au début, quand je l'avais écrit, à mes 19
d'ailleurs,
ans.
D'ailleurs, oui. Donc, t'as vraiment l'air d'une bad girl.
Ouais. Parce que
et encore plus là, je sais pas si on voit la caméra, mais c'est assez rigolo. Ça fait vraiment... un peu James Bond girl, en fait. Uh-huh. C'est ça. OK, et donc de quoi tu parles alors dans ce livre?
Dans ce livre-là, c'est...
Le guide ultime de la femme moderne.
Exactement. Puis c'était... Je me souviens quand j'avais commencé à l'écrire, parce que moi, j'écrivais beaucoup dans mes journaux intimes. J'avais toujours ça à écrire. Alors, je m'étais dit, je vais écrire un livre des leçons que j'ai apprises jusqu'à maintenant. C'est à 19 ans, hein, tu penses que t'as appris plein de leçons. Puis je m'étais dit, parce que je sentais qu'il y avait beaucoup de choses qui m'étaient arrivées dans ma vie, que moi, j'ai toujours été très... J'ai jamais eu de difficulté à apprendre les leçons de la vie. Je suis quelqu'un qui... je passe par quelque chose, puis au lieu de comme refaire la même erreur plein de fois, je vais juste comme apprendre la leçon, puis je me demande tout le temps c'est quoi la leçon à apprendre. Puis j'écrivais toujours dans mes journaux, alors je me suis dit, je vais écrire un livre de leçons et aussi comme un peu de ma vie. Puis là, le livre s'est transformé justement en un guide pour les jeunes femmes, pour les aider à avoir plus confiance en elles, pour les aider à se sentir mieux dans leur peau, juste à sortir de des relations toxiques. Et c'est drôle parce que j'écrivais ce livre-là, puis moi, j'étais en train de passer par là, n'est-ce pas? Donc, c'est comme si je m'aidais moi-même quand j'écrivais justement le livre. Mmh. Puis, c'est comme ça que ça a commencé. Puis, par la suite, je l'ai lancé. Ça, c'était en 2009 que tout ça est arrivé, n'est-ce pas?
D'accord.
J'ai lancé le livre en octobre 2010.
C'est un livre auto-édité. Donc, t'avais payé pour son impression.
Ah ouais, ouais.
Et comment t'as fait alors pour le vendre, pour te faire connaître?
C'était... Je me souviens quand le livre allait sortir dans quelques mois. Puis là, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Comme il n'y a personne qui me connaît, il n'y a personne qui sait qui je suis. La première chose qui m'est venue par la tête, c'était je vais faire une tournée des écoles secondaires. Je vais appeler les écoles une par une.
Donc, c'est quel âge ça? Parce qu'on n'utilise pas le même terme en France.
OK, lycée.
C'est le lycée, d'accord.
Oui, oui,
donc,
exactement.
C'est 16-18 ans.
Exactement. Non, c'est comme 15-17.
OK, c'est plutôt le collège.
Ouais, okay. Enfin,
bon, collège. C'est un mix entre collège-lycée.
Enfin, ouais.
OK, 15-17.
Puis je me souviens que rendu à ce point-là, j'étais déjà retournée à ce travail-là, n'est-ce pas? Donc, je travaillais à temps plein. Alors, durant mes pauses de 15 minutes et durant mes lunchs, j'allais dans la cafétéria puis j'appelais les écoles secondaires une par une pour leur proposer ma conférence qui était gratuite. Puis j'avais commencé à faire la tournée des écoles secondaires. On ne me payait pas. J'allais, très souvent, c'était des écoles qui étaient très loin. Donc, j'allais en autobus. Ça me prenait 2 heures pour aller, 2 heures pour revenir. Rendu à ce point-là, j'avais changé mon horaire. Je travaillais de 3 heures à minuit pour pouvoir, durant la journée, aller aux écoles secondaires. Donc, c'était beaucoup de travail fort.
Comment ça s'est passé pour ta première école? Tu t'es pointée comme ça, t'as fait « Hey! Je viens d'écrire un super bouquin qui n'est même pas encore publié. Est-ce que je peux en parler? »
Non, il était déjà publié à ce point-là.
OK, d'accord.
La première école secondaire que j'avais faite, c'était en novembre 2010. C'était l'école John Rennie, qui est juste ici, proche d'ici. J'avais appelé.
Tu avais 19 ans.
J'avais 19
ans. Tu venais juste de quitter une école comme ça, moi.
Ouais, exactement, c'est ça. Mais je disais jamais mon âge. Je disais jamais mon âge parce que sinon, ça, ils allaient faire comme là, qu'est-ce que tu vas venir enseigner aux jeunes de 17 ans, tu sais, 2 ans de moins que toi. Puis je vais toujours me souvenir que j'étais allée, j'étais extrêmement nerveuse. Tu sais, c'est faire des conférences, c'est une
super chose. Et comment t'as convaincu ta première école? C'est ce qui m'intéresse, parce que je trouve ça vraiment...
J'essaie de me souvenir.
C'est pas facile.
Non, ben regarde.
Donc déjà, t'as pris rendez-vous avec eux.
Ah, ouais. Et non, j'appelais.
Tu t'es pointée, d'accord.
Non. J'appelais en premier. Puis là, je leur disais, bonjour, je m'appelle Alexandra Villaruel. Je suis coach de vie. J'avais déjà fait ma certification en octobre 2010. Je venais de la faire. Je suis coach de vie certifiée. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Au-delà de la beauté » qui est pour aider les jeunes filles à avoir confiance en elles, à se sentir mieux dans leur peau, à s'aimer elles-mêmes. J'avais créé un genre de outline de la conférence, de quoi ça allait parler, tu sais, les points importants. Puis là, je leur disais, est-ce qu'il y a une adresse courriel où je peux vous envoyer justement le outline, comme le résumé de cette conférence? Puis là, la majorité, grande majorité disait non. Puis ensuite, il y en avait peut-être un ou deux qui allaient me dire oui. Puis là, j'envoyais ça. Puis... comme je dis, la grande majorité, c'était non, mais il y en avait certains qui disaient oui. Puis plus que je faisais les conférences, plus que l'on me disait oui, parce qu'elle disait, est-ce que tu l'as déjà fait quelque part? Oui, j'ai déjà fait là et là et là, etc. Puis là, j'avais des lettres, tu sais, qui disaient c'était quoi le résultat, puis que c'était bien, etc. Puis c'est ça, la première école, c'était John Rennie. Puis c'était une madame qui était très gentille, qui était l'intervenante pour les jeunes. À chaque fois, quand je tombais sur des personnes, justement, qui avaient le bien des jeunes vraiment en cœur, puis qui veulent vraiment aider, qui sont vraiment... là pour comme voir les jeunes se supérer tout ça, parce que malheureusement dans le système éducatif c'est pas tout le monde qui sont comme ça, n'est-ce pas? Ben quand il y avait des personnes comme ça, quand je tombais sur des personnes comme ça, ben c'était très souvent des oui. Puis cette madame-là, j'avais même fait un programme après ça dans son école, j'allais comme tous les midis, tous les jeudis midi, puis tout ça. Donc c'est comme ça l'avait commencé. Puis
aussi, tu faisais ça gratuitement?
Je faisais ça gratuitement,
juste
pour me faire connaître. D'accord. Jusqu'en 2012 ou que la première école, qui était Calixa Lavallée ici, le directeur, un homme extraordinaire, qui était très jeune, donc sa vision des choses était un peu différente, parce qu'il comprenait le développement personnel, il aimait tout ça, il m'a proposé mon premier contrat pour une école secondaire, où que j'allais justement, une fois par semaine, enseigner un cours aux jeunes filles sur la confiance en soi.
C'est juste pour les jeunes filles?
Ouais, juste pour les jeunes filles.
Okay. Et tu étais payée pour ça?
Ouais, j'étais payée pour
donc
ça.
Donc là, c'est...
la commission scolaire.
Tu commençais à avoir un petit revenu?
Exactement. J'avais déjà commencé à travers, on va dire, le livre, évidemment, le coaching, donc j'avais des clientes de coaching, puis aussi j'avais commencé parce que j'avais déjà lancé mon premier programme en ligne un peu qui s'appelait « Tu détiens le pouvoir ». Donc ça c'est comme ça que ça l'a un peu commencé.
C'était une première formation en ligne, et ça t'avais réussi à la vendre?
Ouais. Mm-hmm.
Ok.
Et je donc sais même pas comment, parce que je connaissais pas les stratégies marketing qu'on connaît tous aujourd'hui, qu'on utilise aujourd'hui. Moi dans ce temps-là, je me souviens, j'avais lancé ce programme, j'avais juste fait une vidéo sur YouTube en disant « Hey guys, j'ai créé un programme, voici le lien, allez dessus, vous pouvez l'acheter ». Puis ça l'avait vendu.
Ça a marché.
Ouais, ça a
marché. Tu avais déjà commencé à bâtir une petite communauté, une petite présence sur le web.
Ouais, ça aussi. Okay. Hein. Ta question, justement, comment j'avais fait pour me connaître, c'était la tournée. Puis c'était aussi, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Mm. Ça, on sait le pouvoir des vidéos sur YouTube, c'est extraordinaire. Mm. Ça, c'était comme ça. Ça a tout commencé.
Ok, donc 2010.
2010.
Et à partir de là?
À partir de là, c'est. Tout a commencé à. Ben, la communauté a commencé à grandir, évidemment. J'ai commencé à comprendre le marketing en ligne. T'sais, moi, jusqu'en fin 2012, j'avais pas de liste de courriels. T'sais, je savais même pas c'était quoi, je savais pas à quoi ça servait, j'avais aucune idée. Ben oui! Moi, je savais même pas que ça existait, le marketing en ligne, toutes ces affaires-là. J'avais aucune idée. Puis c'est par la suite que j'ai commencé à comprendre tout ça. Puis c'est là, évidemment, quand tu commences à comprendre comment ça se fait, comment tu fais une série de vidéos pour lancer un programme, etc., c'est là que les choses deviennent évidemment plus faciles. Donc, c'est comme ça.
Wow, ok. Mm-hmm. Et à partir de quand tu as pu vivre de cette activité?
À partir de 2013.
Donc, ça t'a pris 3 ans quand même. Et pendant ce temps-là, comment tu as fait pour vivre là?
Je travaillais en 2011, le travail que j'avais m'a renvoyé, parce que je n'allais pas souvent, parce que quand, on va dire, une école m'appelait pour faire une conférence. Ça s'appelait, c'était à Bell. Puis Bell, c'est une compagnie de téléphone, d'Internet, etc. Puis je répondais aux appels, puis j'aidais les gens à connecter leurs câbles. C'était très drôle parce que quand il y a des personnes âgées qui t'appellent, c'est jamais...
Oui, c'est clair.
c'est des heures au téléphone, c'est comme « Oh my God ».
Pour essayer d'expliquer les trucs.
Ouais. Donc, c'était pendant à peu près deux ans et quelques que j'avais travaillé là. Puis là, ils m'ont renvoyé à cause que j'allais pas assez souvent, parce que je manquais toujours à cause que j'allais à des conférences, à cause que je me disais « Ok, non, il faut que j'aille là », etc. Puis là, par la suite, j'avais cru que j'allais pouvoir survivre. Ça a duré 3 mois. Après, je me suis dit « Bon, ben, je pense que je vais me trouver un autre emploi ». Puis là, je m'étais trouvé un emploi à temps partiel à une boutique. Et par la suite, quelques mois après, j'avais trouvé un autre emploi qui était à temps partiel aussi, puis que je pouvais travailler de chez moi à une concessionnaire de voitures. Puis c'était comme répondre à des emails puis des choses comme ça. Puis là, c'est par la suite en 2013 que j'ai pu finalement vivre de ça. Puis c'était très, tu sais, progressif. C'était beaucoup aussi réinvestir dans l'entreprise. Donc, j'essayais de prendre le minimum possible pour moi. Mm-hmm. Puis le restant allait comme dans ma business. Surtout, tout ce que je faisais de la business rendu à ce point-là, ça allait tout dans la business. Comme tout. Ça, j'en prenais pas pour moi, puis c'était juste pour réinvestir, pour faire grandir les choses, pour prendre les bons programmes, les choses comme ça, puis tout ça.
Du coup, tu as pu rembourser tes 20 000 $ de dette?
Ouais. Thank God.
Bravo. Yes. Ouais. Maintenant, tu n'as plus de dette, ça va?
Plus de dette. Zéro. Ça me rend très, très, très heureuse. Même que les cartes de crédit, j'en utilise vraiment pas parce que je suis une grande croyante contre ça. Mais on en avait parlé, je pense, à Paris, que c'est bon pour les points de voyage, etc.
Oui, alors ça, c'est encore un autre sujet. moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a eu un moment pendant ces 3 ans où tu gagnais pas assez pour vivre de ça? Où tu étais un peu découragée, où tu t'es dit, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je ferais pas mieux de faire la fête comme tout le monde? Parce que j'imagine que tu as dû faire quand même des sacrifices par rapport à ça.
Ouais. C'était quand j'ai commencé à écrire le livre, j'habitais toujours en appartement avec mon ami. Puis qu'est-ce que j'avais décidé de faire? C'était de plus sortir les fins de semaine. Puis je me disais, OK, si à toutes les fins de semaine avant ça, ça fait depuis déjà 2 ans presque, je sortais puis je restais réveillée jusqu'à 4 heures du matin, ben je vais rester réveillée jusqu'à 4 heures du matin en train d'écrire mon livre. Ça, je me souviens qu'à tous les vendredis soirs et samedis soirs, j'entendais mes amis revenir du party. Tu sais, moi, j'étais en ma chambre à coucher, j'avais la porte fermée. Puis j'entendais rentrer, puis j'entendais rire et parler de la soirée, comment c'était amusant, tu sais, toutes les gags qui étaient arrivés. Puis il y avait beaucoup de fois où que je me disais, est-ce que je suis en train de perdre les plus belles années de ma vie? Tu sais, est-ce que je vais regretter un jour? C'était pire durant l'été. Je me souviens, l'été, c'était, tu sais, tout le monde allait aux piscines, à la plage, les barbecues. Puis moi, j'étais soit chez moi, en train de travailler, à faire grandir mon entreprise, ou dans un café. Puis surtout aussi, si t'as pas d'argent, n'est-ce pas, pour sortir, ça aide pas non plus, non? Donc, pendant très, très longtemps, je me questionnais, est-ce que je vais regretter ça? Est-ce qu'un jour, je regarde en arrière, puis je vais dire, oh, tu sais, le début de ta vingtaine, c'est comme un temps, tu sais, tu dois faire la fête, puis tout ça, mais je me disais, c'est quoi? Non, ça va valoir la peine un jour, je sais que je vais pas regretter tout ça. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de fois, tu sais, ici, t'es chez moi, puis ce condo-là, justement, quand j'avais encore le travail à Belle, puis que là, ça faisait 2 ans, j'habitais en appartement avec une amie. À la fin de notre bail, c'est soit j'allais aller me louer un autre appartement pour habiter seule, ou soit acheter quelque chose. Puis j'avais trouvé cet endroit ici, qui allait être le même prix qu'un loyer. Puis quand j'avais emménagé ici, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de meubles quand j'étais arrivée. J'étais toujours seule ici. Donc cet endroit que là, cette année, je vais déménager d'ici, puis ça me brise le cœur. J'ai vu beaucoup, beaucoup de moments dans ma chambre à coucher là-bas. Il y a une croix juste en haut. Je pourrais pleurer parce que je me mettais plein de fois à genoux par terre, puis je pleurais devant la croix, puis ça m'a motivé parce que je me disais je me souviens, je priais à Dieu, puis je disais, est-ce que ça va marcher ou est-ce que je suis juste folle? Parce que, tu sais, quand on commence, très souvent, surtout dans cette industrie, les gens comprennent pas, c'est pas quelque chose de normal à faire, n'est-ce pas? Donc, ma famille me faisait des interventions à tout comme les 6 mois pour me dire comme Alexandra, tu devrais trouver un travail stable, tu devrais retourner à l'école.
Ça, c'est normal, avec l'entourage.
C'est ça, donc je me disais peut-être que c'est moi qui est folle, mais en même temps, il y avait cette voix, c'est quelque chose, ce genre d'intuition dedans moi qui
c'est
me disait
vraiment
non.
Toi.
Ouais, comme ça va marcher, juste continue, juste pousse.
Tu n'avais pas d'amis entrepreneurs?
Zéro.
On s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps, c'était il y a un peu plus d'un an à Montréal, et c'était la première fois que tu rencontrais des acteurs de l'industrie, alors que ça faisait déjà 5 ans que tu étais dedans.
J'étais très très seule pendant très
longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé, Alexandra? Pourquoi tu n'as pas suivi des gens sur YouTube?
Non, vraiment, comme surtout dans les... Moi, j'ai suivi beaucoup de personnes dans le monde anglophone. Ouais. Je connaissais, mais je ne savais même pas qu'il y avait tout ce monde francophone. Tu sais, moi, je vous ai tous rencontrés parce que Martin Latulippe m'avait envoyé un message. Quand il m'avait envoyé un message sur mon site internet, comme quand j'ai vu son nom, j'avais aucune idée de qui. Après, je suis allée voir son site internet, sa page Facebook. Je suis comme, OK, comme tu sais, il fait comme, qu'est-ce que je fais? OK, on va se rencontrer, on va aller prendre un café ensemble. Mais j'avais aucune idée que tout ce monde-là existait. Tu sais, encore une fois, je ne connaissais pas le marketing en ligne. Je ne connaissais pas tout ça. Tu sais, j'avais aucune idée de tout ça. Mais aussi, je me dis, je crois beaucoup à ce qu'Oprah dit, when you do your best, people notice. Si on va dire, moi, je vous aurais envoyé des messages en 2012, quand j'étais en train de commencer, quand vous auriez probablement fait comme, OK, comme, t'es cute. on va se voir éventuellement, on va se voir bientôt.
Tu aurais pu venir aux événements, c'est ça surtout.
Ouais, mais
parce que l'isolement que tu as vécu, c'est quelque chose d'assez fréquent, justement.
Ouais.
C'est difficile de te connecter avec les gros acteurs, mais tu peux te connecter avec des gens qui sont à ton niveau.
C'est ça.
Et en venant aux événements. Mais c'est intéressant, justement, que tu n'as pas eu ce réflexe. Tu suivais le monde anglo-saxon et pas le monde francophone.
Ouais, ouais. Ouais,
donc,
Ça va pas que ça.
Et du coup, ça a dû d'autant être plus difficile pour toi de garder la motivation. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, que tu as tenu comme ça alors que t'étais parfois en train de pleurer à genoux
C'était juste de croire, d'avoir ce genre de foi un peu folle.
Tu pensais vraiment que c'était ça où tu loupais, enfin, où tu pouvais pas vraiment vivre ce que tu voulais. T'avais une sorte de feu sacré.
Oui, c'était à un moment donné, je me souviens, j'avais fait la décision, c'est ça ou rien. Je me souviens, quand ma mère essayait de me faire des interventions, je disais, maman, tu comprends pas que ça, c'est pas un travail que je veux faire. C'est pas comme juste quelque chose que j'essaie de faire. Je disais, maman, c'est ma vie. Comme c'est ma vie. Je sais que je suis venue dans ce monde pour faire ça. Donc, je disais, je vais pas arrêter, comme je sais que ça a l'air fou en ce moment, mais c'est ma vie. Comme, c'était comme laisser tomber, c'était même pas un choix, c'était même pas une option. Puis je suis tellement contente de pas avoir laissé tomber parce que sinon, ça serait pas cool.
C'est intéressant parce que ça rejoint aussi ma propre expérience. J'ai pris ma première boîte à 19 ans, j'avais vraiment le feu sacré.
Ouais.
Je pouvais pas avoir une autre manière.
Pas d'autre choix.
De faire. Enfin, c'était tellement, ça me remplissait tellement que j'étais prêt à faire ce qu'il fallait pour réussir. Ouais. Bon, en tout cas, bravo. Là, mais aujourd'hui, tu as un business qui marche bien.
Ouais,
ta chaîne YouTube, on avait fait un. On parle du pari ou pas ou...
On peut en parler. On peut en parler si ça peut sentir bien.
Puisque quand on s'est rencontrés donc, en octobre 2015 à Montréal, on était tous les deux à 30 000 abonnés à peu près.
Ouais.
On a fait un pari sur celui qui atteindrait les 100 000 en premier. Bon, désolé. Hein.
Ouais, il a gagné. Il a gagné le pari.
Mais tu as quand même une chaîne qui marche bien puisque tu t'approches des 60 000 abonnés, c'est
ça? J'ai déjà 60 000. 61 000.
Bravo. Yes.
Je vais bientôt arriver à te dépasser.
Et donc, tu fais une chaîne en trois langues. Alors, moi, personnellement, je pense que c'est une erreur stratégique, on en a déjà parlé, d'avoir les trois langues sur la même chaîne. Toi, tu n'es pas d'accord, ok. C'est intéressant. En tout cas, aujourd'hui, peut-être que les gens se demandent, tu vois, ton impact, il est plus important dans quel monde? Francophone, anglophone ou hispanophone?
Francophone puis hispanophone, ça rendit presque la même chose.
D'accord.
En termes d'impact de gens que je rejoins, c'est la même chose.
Donc, tu te fais aussi inviter dans des événements. Tu es parfaitement trilingue, il faut le dire quand même. Tout à l'heure, tu parles à ta maman en espagnol, c'était impressionnant. Et tu es tellement bonne en anglais que tu as écrit ce livre d'abord en anglais et que tu as fait traduire.
Mais comme je disais tantôt, l'anglais, c'est une langue plus facile à écrire.
Et pourquoi en anglophone, alors ça marche moins bien?
Ben, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de compétition, le côté anglophone. C'est juste le fait, on va dire, tu mets une vidéo qui s'appelle « How to be confident » en anglais, tu vas être comme à la centième page. Parce qu'il y a déjà tellement de gens qui ont fait ces vidéos-là, qui en faisaient depuis 2007. Par contre, quand j'ai commencé à faire des vidéos en espagnol puis en français, ben, quand je faisais « How to be confident », j'arrivais à la première page parce qu'il n'y avait pas encore du monde. Là, ça commence à en avoir de plus en plus, mais c'est juste une question de ça. C'est que c'est déjà très, très saturé. Mais tu sais, j'ai quand même un public en anglais, ce qui me rend très heureuse.
C'est super.
Puis mon but, c'est de continuer à faire grandir surtout le public en anglais. Parce que là, je sens que comme en français puis en espagnol, ça va super bien. Je vais mettre beaucoup, beaucoup d'efforts sur le côté anglophone.
Intéressant. Moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner dans
Je suis très curieuse.
Dans les prochaines années.
Moi aussi.
Alors, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est creuser un peu plus dans tes habitudes et ce que tu fais, tu vois, régulièrement.
Ouais.
Est-ce que tu as un rituel déjà pour commencer ta journée?
La première chose que je fais le matin, c'est donner des bisous à Coco Chanel.
Voilà, on se réveille. Tu donnes des bisous qui sont, ma foi, très, très sympathiques, il faut le dire.
Ma petite princesse, elle est tellement mignonne. Je me réveille le matin, je fais ça, après ça, je lis...
C'est bien meilleur démarrer la journée.
Ouais, c'est parfait, c'est la meilleure façon. Après ça, je lis Course in Miracle, tu connais? Un cours en miracle.
Cours en quoi, miracle?
En cours en miracle, A Course in Miracle,
okay.
Je vais te le montrer après.
Ouais.
Je lis ça, c'est un livre très spirituel, très sûr. Bah, c'est justement
donc, c'est ce que tu lis en ce moment?
Ouais.
D'accord.
Non, mais c'est un livre que tu lis constamment.
D'accord.
C'est un peu comme ça serait la Bible, mais c'est comme A Course in Miracle. Parce
D'accord.
que c'est un livre que comme...
Donc alors, tu te lèves, tu fais un bisou à Coco.
Ouais.
Et tout de suite, tu te mets à lire un petit passage de ce bouquin.
Ouais, dans mon lit, je reste dans mon lit, puis je fais ça.
Parce que c'est inspirant, c'est ça?
C'est inspirant, mais ça t'enseigne beaucoup sur le laisser-aller de l'ego puis le retour vers l'amour, qui est comme l'énergie qui va sauver le monde.
Okay.
c'est vraiment, vraiment ça. Par la suite, je me lève et je vais faire un peu d'exercice. Un petit peu.
C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais?
J'ai mon petit tapis de yoga, puis là, je fais des squats.
Tu fais des squats? Ouais. Juste des squats?
Juste des squats.
OK.
Je fais rien d'autre.
Bon, donc, tu as des super cuisses.
Non, j'essaye d'avoir des super cuisses. C'est pour ça que je fais des squats. Ça, tous les matins, je fais ça. Par la suite, je vais à la cuisine. Je te montrerai tantôt. J'ai comme un genre d'une poudre de... C'est une poudre verte que tu mets juste un scoop dans de l'eau puis tu as déjà 8 portions de fruits et de légumes comme d'un coup. So, évidemment, c'est bien de manger aussi des fruits et des légumes. Il faut, évidemment. Mais ça, c'est comme une bonne alternative, surtout quand tu es pressé et que tu as des choses à faire. Pendant ça, je me fais un petit déjeuner comme n'importe quoi. Je ne suis pas quelqu'un qui mange beaucoup le matin. Je me fais du café, très important pour moi le matin. Puis par la suite, ma journée va commencer. Donc, ce n'est pas une grande routine, évidemment. Au Canada, au Québec, on va dire aller prendre une marche dehors, etc. Je le fais durant l'été. Surtout, ma mère, elle habite proche de chez moi. Donc, tout cet été, on se rejoignait tous les matins à 7h du matin dehors, juste là-bas. Puis là, on allait avec Coco prendre des marches pendant comme 15 minutes, ce qui est bien, ce que j'aime beaucoup faire. Puis c'est ça. Donc, c'est pas une le genre de routine.
Oui, l'hiver, quand il fait moins 20, tu fais un petit peu moins de promenade.
Un petit peu moins. Coco d'accord. Chanel, elle aime pas vraiment ça aussi.
Oui, d'accord. Ouais, OK, donc, ouais, donc tu démarres à peu près tout le temps comme ça,
ouais.
Y compris le week-end. Et tu travailles le week-end ou pas? Comment tu commences à s'organiser?
Je travaille quand je veux travailler ou quand aussi parfois s'il y a des, on va dire comme tu sais, des lancements ou des choses comme ça que là, tu sais que tu dois vraiment beaucoup plus travailler. Mais ouais, mais ça dépend des journées. Ça dépend des journées.
Tu sais combien d'heures tu travailles par semaine à peu près? En moyenne, non?
Parce que je sens que je suis jamais pas en train de travailler. Comme je sens que mon cerveau est toujours en train de travailler sur quelque chose.
Non, d'accord. Mais quand est-ce que tu travailles activement, de manière consciente?
Je dirais comme à peu près 70 heures par semaine. On en avait déjà
Waouh! Ok, oui, mais je veux voir ça à la caméra. D'accord, 70 heures par semaine. Ah oui, c'est énorme.
Ouais.
D'accord, et ça te va comme rythme?
Ouais,
okay.
J'aime ça.
D'accord, mais tu sais bien faire la fête aussi. On était à Las Vegas il y a 2 semaines, là, c'était sympa.
Ouais, c'était sympa.
On va pas donner tous les détails, mais c'était sympa.
C'était bien.
Si vous voulez aller voir l'extrait d'Alexandra qui nous raconte son expérience de boire du vin blanc et du vin rouge mélangé.
C'est ta faute.
C'était sympa.
Non, j'ai toujours su bien faire la fête. Quand je fais la fête, là, je fais la
donc
fête.
Donc, toi, ton leitmotiv, c'est un peu work hard, play hard.
Ah oh, ouais, définitivement.
Ouais, je sens ça chez toi.
Ouais, ouais.
70 heures quand même, donc tu travailles aussi tout le week-end et tout ça.
Oui, comme il y a beaucoup. On va dire. Okay. Le week-end prochain, par exemple, une des choses que j'aime beaucoup, beaucoup faire, c'est aller dans un café ici proche de chez moi. C'est une librairie, c'est Chapters. Mm-hmm. Puis il y a un Starbucks en haut. Puis j'aime beaucoup passer, on va dire, toute une journée. Là. Comme si j'arrive à 10h du matin, puis je m'en vais à comme 9h du soir quand il ferme. Là. C'est juste toute la journée avec comme, plein de café, puis les petites sucreries et tout ça. Il y a un restaurant de sushi en bas, où je vais prendre mon sushi pour le midi, puis le souper. Puis je reste toute la journée là à travailler. Puis ça, j'aime beaucoup, beaucoup ça, faire ça. Donc je suis très. Parfois, je peux être très extrême dans ce que je fais, ce qui n'est pas bien, parce que parfois, j'oublie de manger, des choses comme ça. C'est pas très, très bien, mais je pense que... Genre, j'ai fait une vidéo sur ça fait pas longtemps, sur comment avoir une vie équilibrée.
Oui.
Puis, je disais justement dans ma vidéo que oui, parfois, ça va être possible d'avoir de l'équilibre dans sa vie, mais parfois, si tu veux atteindre de grands niveaux de génie, si on peut dire, l'équilibre n'existe pas. T'sais, si on pense à des gens comme Albert Einstein, Picasso, etc., est-ce que c'était des gens qui avaient de l'équilibre dans leur vie? Non, c'était comme des fous. T'sais, c'était comme des personnes qui travaillaient sans cesse. T'sais, c'est pas, tu ne devrais pas faire ça tout le temps parce que tu ne veux pas comme mourir comme tôt dans ta vie à cause que comme tu as trop usé ton corps, mais parfois, je peux être vraiment comme ça. Je peux être ici à 4 h du matin en mode folle scientifique avec mon tableau en train d'écrire.
J'aimerais bien voir ça.
C'est très drôle. C'est très drôle à voir. J'aimerais me filmer un jour. J'aimerais faire ça.
Ok, c'est intéressant. Ouais. Donc, tu penses qu'il y a un côté sain, enfin, intéressant, le déséquilibre productif en tout cas, créatif. Ah ouais.
Créatif, c'est vraiment le bon mot que tu as choisi. Créatif, okay. Définitivement.
Ouais,
je pense que c'est nécessaire même parfois. Parce que je parlais de ça avec François quand on était à Las Vegas. Puis il me disait comment que. Lui aussi, il est comme ça, il y a des bouts que c'est très, très extrême ou que il oublie de manger, il oublie de dormir, c'est juste ça rentre dans ce côté-là très extrême, mais c'est là que les idées de génie créative arrivent, on dirait. C'est dans des moments à 3h du matin, quand ça fait comme 5 tasses de café que tu bois, puis que comme t'as pas dormi pendant comme je sais pas combien d'heures, que c'est comme si tout à coup, là, on l'encourage pas, ok, commencez pas à faire ça, puis à tous tomber malade.
Ne faites pas ça chez vous.
Ne faites pas ça à la maison. mais je pense que c'est parfois là que ça vient. Puis moi, je sais que dans les meilleures créations que j'ai faites, les meilleures choses, que ce soit dans des programmes, que ce soit dans mon livre, etc., ça a été justement à comme 3h du matin, quand ça faisait quelques tasses de café que j'avais bu, puis que j'étais seule ici, puis que je fais, oh my god, c'est tellement bon, c'est tellement intelligent, comment je vais pour penser à ça? C'est joli, écrit.
Ah oui, c'est intéressant. Mais c'est pas trop comme ça que je suis créatif.
Ouais, toi, c'est comment t'es créatif?
En fait, moi, c'est quand j'adore voyager, je voyage ici ma part. Alors, c'est pas mon interview, donc j'abrège, hein, mais c'est quand je suis plutôt détendu, justement, que j'ai pas de choses à faire et quand je suis dans des paysages inspirants et tout ça, je trouve ça vraiment. On n'a pas la même méthode.
Ouais, mais c'est bien, ta méthode, je pense qu'elle est beaucoup plus saine que la mienne, définitivement. Alors écoutez,
moi, quand j'ai trop de trucs à faire, au contraire, j'ai ma liste, j'ai ma to-do list et je suis créatif, en fait, je suis plus dans l'exécution.
Dans l'exécution,
ouais. C'est quand j'ai du temps pour penser que.
Ouais.
Ouais. Bon, c'est bref, c'est intéressant, tu vois, il y a des choses.
Tout le monde est différent.
Ouais, et puis peut-être que ça fonctionnerait pour toi aussi. Hein. Est-ce que tu as déjà testé de faire ça?
Faudrait que j'essaye.
Tu voyages un peu?
Ben oui. L'année dernière, j'ai quand même beaucoup voyagé, pas autant que toi, évidemment. Là, cette année, je pense faire quelques petits voyages ici et là aussi. Je pense à Dubaï. Étais-tu déjà à Dubaï?
Non.
Je vais aller cette année.
Ouais. Super.
J'ai hâte.
Coucou à tous ceux qui sont encore là, si vous êtes motivés, ça fait plaisir. En fait, tu vois, quand tu regardes la courbe des longues vidéos, ça fait comme ça, mais il y a toujours des gens qui vont jusqu'à la fin.
Bah oui, ça c'est les gens
Moi, en tant que c'est intéressant et que ça intéresse des gens, voilà. Tu vois, quelque chose d'intéressant, une excellente question à poser. Quel est l'outil que tu apprécies le plus, que tu utilises ces derniers mois, que tu utilises vraiment de manière habituelle, toi, je sais pas, dans ton business, dans ta vie, où il y a quelque chose, un truc qui te que tu apprécies, tu vois, ça peut être un outil physique, ça peut être un logiciel, ça peut être je sais pas.
Bonne question. Ouais, tu vois. L'outil. Ben je pense que l'outil que j'utilise depuis très longtemps puis qui m'a toujours aidé, que je vais toujours apprécier énormément, moi c'est les agendas. C'est pour ça que je lance ma ligne d'agenda, les créations
inverses. Donc un agenda papier?
Donc, moi, je peux
tu
pas.
Tu mets tes rendez-vous?
Moi, je suis très.
Bon, d'accord,
très
enfin, ça, c'est.
Ben, c'est un outil, c'est mon outil préféré. Tu m'as
dit. Ok.
C'est mon outil préféré. C'est... c'est... Ok? C'est honnêtement, c'est vraiment. Je peux pas vivre sans un agenda, comme j'ai vraiment besoin de ça. Mais surtout, un agenda, non seulement pour mettre les rendez-vous, mais aussi pour planifier tes projets, les choses que tu as à faire, etc. Parce que c'est justement des outils que j'utilise. Que j'utilise constamment, qui m'aide à rester. Étant donné que je peux être très, très créative, que j'ai toujours des nouvelles idées, comme je te disais, je sens que je travaille tout le temps parce que mon cerveau est toujours en train de fonctionner, j'ai besoin de mettre de l'ordre à ces idées-là. Donc, j'ai besoin des outils comme ça qui sont en papier, qui sont physiques pour pouvoir organiser le tout. Donc, je sais pas si c'est un.
Ok, non, mais c'est fair. D'accord. Donc, simple et efficace.
Exactement.
Simple et efficace. Ouais. Ok, bah écoute, je pense qu'on a eu un bon aperçu de déjà ton comment tu es arrivé là où tu en es, ton état d'esprit entrepreneur. Ça, c'est très intéressant au final parce que tu as démarré très jeune. Et je pense que, tu vois, il y a quand même quelque chose. Je pense qu'il y a quand même certains qui pourraient questionner ta pertinence. Étant donné que tu as démarré si jeune et qu'au final, tu réussis en expliquant aux autres comment réussir. Comment tu réponds à ça?
C'est surtout au début. Tu sais, moi, pendant longtemps, je n'ai jamais dit mon âge. C'est juste maintenant que je dis mon âge.
Quel âge?
27.
D'accord.
Ouais. Mais quand j'avais commencé, je ne disais jamais mon âge. Puis juste mes cartes d'affaires, j'aurais dû les avoir assez longtemps. Mes premières cartes d'affaires, j'avais ma photo dessus. On a fait une séance de photo. Puis j'avais demandé à ma conceptrice graphiste qui faisait aussi du Photoshop de me faire paraître le plus âgé possible, comme le plus mature possible sur la photo, parce que justement, je voulais pas que les gens sachent que j'étais si jeune. Donc, mais il y a eu plein de fois qu'on me l'a dit. Tu sais, c'était dans les écoles quand j'appelais. Parfois, ils me disaient, vous avez quel âge? Puis là, tu sais, je ne peux pas mentir non plus. Je disais, 19 ou 20. Puis là, ils disaient, vous pensez pas que vous êtes trop jeune pour venir enseigner des choses, pour être coach de vie, etc. Puis à chaque fois, ça me faisait que je me questionne moi-même. Tu sais, je me disais, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que c'est con. Je me souviens quand j'avais lancé mon site internet, un des premiers messages que j'avais reçus à travers mon site internet, c'était anonyme, mais c'était quelqu'un qui m'avait écrit désolé pour le langage, est-ce qu'on peut sacrer sur ta chaîne YouTube?
Oui. Tu peux sacrer.
C'était genre quelque chose comme shut the fuck up, bitch. You're only 19 years old, get a fucking grip, get a life. Comme je sais pas quoi, tu sais.
Ça fait toujours plaisir.
Ouais, je me suis dit, merci, je viens de lancer mon site, le premier message.
Ah ben ça, c'est bienvenue au club, c'est bienvenue au monde, tu vois.
Exactement, mais tu sais, à mes 19 ans.
Ça arrive à tout le monde.
C'est ça. C'est... Mais à mes 19 ans, c'était comme.
Oui, ça fait un peu mal, oui.
Ok, là, comme
ça. Pique un peu.
Ouais. Les premiers, hein, ça fait toujours quelque chose. Donc, pendant longtemps, je m'étais questionnée. Aujourd'hui, je suis très, très confiante dans qui je suis, dans qu'est-ce que je fais, dans qu'est-ce que je sais, puis dans qu'est-ce que je peux apporter. So, aujourd'hui, j'ai vraiment aucun problème, même si oui, j'ai 27 ans, je sais que je suis encore jeune, mais je sais que j'ai beaucoup, beaucoup apporté. J'ai une clientèle maintenant de vraiment tout âge. Tu sais, j'ai surtout des clientes comme qui prennent, on va dire, l'École de la Liberté, qui est un programme plus high-ticket, puis aussi de coaching, que je fais encore du coaching, mais pas autant qu'avant. C'est toutes des femmes qui ont plus de 35 ans, tu sais, qui sont plus dans 35 ans en haut, 40... donc, qui savent j'ai quel âge, qui n'ont aucun problème avec ça parce qu'elles comprennent c'est quoi que je peux apporter. Donc, tu sais, il faut s'entendre que j'ai passé depuis mes 19 ans juste à étudier. Tu sais, j'ai lu tellement de livres, j'ai suivi certains programmes, tu sais, je suis allée à beaucoup de conférences, beaucoup de séminaires, tu sais, j'ai dédié les presque déjà 10 ans de ma vie, les dernières 10 années de ma vie, à être un vaisseau à travers lequel je peux enseigner aux gens, à travers lequel je peux apporter des connaissances, à travers lequel je peux aider justement les gens. Alors, je sens que j'utilise justement ma vie et moi-même pour ça. Alors, ouais, rendu à ce point-ci, qu'on me dise
Cool.
shut the fuck up, tout ça, je m'en foutrais. C'est
Là, il se prend un coup de boule, là. Boum.
ça.
Ok.
Exact, ouais.
Bon, écoute, pour terminer cette interview, est-ce que tu peux partager avec nous un conseil pour quelqu'un qui voit, parce que là, les personnes qui sont encore là, elles sont ultra, ultra motivées. Elles se disent, waouh, c'est génial et tout ça. Moi aussi, je vais me lancer, je vais devenir entrepreneur ou entrepreneuse d'ailleurs. Quel serait le conseil que tu donnerais?
Mais le premier conseil, c'est de vraiment faire quelque chose parce que c'est ta passion, n'est-ce pas? Donc, la pire des choses qu'on peut faire, c'est, tu sais, avec les réseaux sociaux de nos jours, les gens nous voient en train de vivre. Les gens voient ce que d'autres personnes font et disent comme, oh, ça a l'air cool, je veux faire ça. Mais ils le font pas parce que c'est leur passion, ils le font juste parce qu'ils pensent que c'est facile. Parce que, tu sais, on en parle nous souvent, puis on dit tout le monde peut le faire, et c'est vrai que tout le monde peut le faire, absolument vrai. Mais à la fin de la journée, seulement un certain pourcentage vont réussir à le faire, et c'est ceux qui sont passionnés. Tu comprends? Donc, définitivement, être très passionné, travailler très, très fort, définitivement, puis persévérer, parce qu'à la fin de la journée, ça va pas arriver rapidement. Je pense que toutes les grandes choses dans ce monde qui sont créées vont prendre du temps, et c'est correct. T'sais, moi, je me souviens quand j'avais commencé, ça, c'était très, très difficile pour moi, parce que moi, j'étais sûre que j'allais être un overnight success. T'sais, quand on commence, on se dit, moi, là, dans 12 mois, OK, je vais faire 5 millions, c'est sûr et certain, parce que moi, je suis spéciale. Mais peut-être qu'il y en a certains que ça va arriver, good for you, mais très souvent, pour créer de grandes choses, ça prend
C'est quand même
vraiment
assez
beaucoup de temps.
rare.
C'est ça, c'est très, très, très rare. Puis très souvent, les gens qui le font overnight, il y a une histoire derrière ça. Ils étaient déjà en train de se préparer avant ça, à travers n'importe quoi d'autre qu'ils étaient en train de faire. Tout ce qu'ils ont vécu avant les avait déjà préparés à avoir ce grand succès qui est arrivé comme d'un coup, si on peut dire. Alors, avoir de la passion, travailler fort et persévérer, ça serait vraiment ça.
Ok, super. Bah, écoute, merci Alexandra
Ben, merci à
d'avoir
toi,
partagé
Olivier.
tout ça,
Un grand
de t'être
plaisir.
dévoilé. Donc pour ceux qui veulent aller voir ta chaîne, donc c'est Alexandra Viroel, vous pouvez citer ton livre, donc Au-delà de la beauté. Et puis si
Nouvelle
vous avez
version va
nouvelle
sortir.
version, donc avec la version un peu moins bad girl, c'est ça. Et
Ah
donc si
ah
vous avez des amis qui parlent espagnol et anglais, ben, en plus vous allez pouvoir partager les vidéos d'Alexandra. Donc c'est super. Hey! Merci d'avoir écouté ce MP3 qui est tiré d'une vidéo publiée sur la chaîne YouTube. Donc comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous aimez écouter ces podcasts sur iTunes, eh bien allez tout simplement sur iTunes pour noter cette émission. Voilà, donnez-lui une note si vous l'appréciez. Et puis comme d'habitude, vous pouvez voir les vidéos originales desquelles sont extraits les podcasts en allant sur olivier-roland.tv. Hein, olivier-roland, Roland.tv. Merci d'avoir écouté ce podcast. À demain pour de nouvelles aventures dans le prochain.